c'est la Maison de Rousseau et de la littérature qui vous accueille. Le but de cette maison est d'allier à la fois l'inventivité et la création, la réflexion critique et ses débats, et les passages, voire aussi les comparaisons, entre les thèmes, les œuvres et les langues. C'est pourquoi nous sommes heureux d'accueillir, en ce dimanche de septembre, deux traducteurs d'Anne Perrier, de façon à rendre un hommage à cette grande poète et à le faire en entrant assez étroitement dans ses textes, en s'associant au travail très minutieux, très soigneux des traducteurs de poésie. Anne Perrier aurait été heureuse d'être accueillie ici, en ce lieu même, par le visage de Corinne Aby, dont elle a toujours été très proche. Toutes deux ont eu une amitié de longue durée, chaleureuse et conviviale, ouverte au rire et accueillante aux livres nouveaux que chacune des deux s'envoyait. Jean Uther, le mari d'Anne Perrier, a introduit Corinne Aby dans sa petite collection poétique, aux côtés, par exemple, d'Anne Perrier, précisément, ou de Philippe Jacotet. Vous voyez donc qu'on est dans un monde proche entre cet hommage qui a eu lieu hier à Corinne Aby et aujourd'hui cet hommage à Anne Perrier. Je pense qu'elle est aujourd'hui, dans son grand âge, la seule qui a traversé tout ce siècle jusqu'à maintenant. Elle a vu partir tous les autres. Je voudrais vous présenter en quelques mots Anne Perrier et notamment souligner qu'elle a eu un moment extraordinaire de reconnaissance lorsqu'elle a reçu le Grand Prix national de la poésie à Paris. Cette année, ce Grand Prix lui a été accordé contre toute attente et je dirais contre tout espoir. Et je voudrais ce prix a aussi de l'importance par la qualité du jury qui a choisi Anne Perrier. La présidente du jury est Sylvia Baron-Supervielle et elle a associé dans ce jury des personnalités qu'elle jugeait très indépendantes du monde littéraire parisien. Et je pense que ce sens de ce qui est un peu caché, un peu secret, mais qui a toute sa force et toute sa puissance, a été pour elle un moteur. Ce Grand Prix de la poésie, que Philippe Jacotet, de son côté, avait déjà touché, a été remis pendant de longues années à de très nombreux poètes, et c'est la première femme à recevoir ce prix. Donc là aussi, il y a un hommage à cette qualité. Je vais vous lire un petit passage du discours de Sylvia Baron-Supervielle, parce que c'est une voix importante et qui réussit à dégager contre la spécificité de cette voix poétique. Il y a 30 ans, un ami qui dirigeait la revue de Belles Lettres à Genève m'offrit un recueil d'Anne Perrier, c'était la voix nomade, qu'elle a apporté dans son sac lors de la remise du prix dans l'édition de La Dogana. Ce que j'ai lu dans ce petit livre, je ne l'ai jamais oublié. La poésie, c'est ça. Ce qui reste dans la mémoire, malgré nous. Non pas le titre, ni les mots particuliers, mais le nom de l'auteur qui reflète son monde et la musique qu'il nous laisse. La poésie d'Anne Perrier est comme un fleuve au bord duquel on avance. De temps en temps, on s'arrête pour regarder la surface, limpide comme un miroir, les fonds tourmentés, la lumière qui s'y promène sans s'éteindre. Cette lumière est formée de textes brefs, légers et forts, dont les mots simples disent la douleur de vivre, éclairée par l'espoir qui se dégage de la nature. Elle pense que toute poésie est une aventure spirituelle. Je le crois aussi. Les deux mots vont ensemble. Anne Perry a traduit d'autres poètes, portugais en l'occurrence, ce qu'il me paraît important de signaler, mais ce qui est plus rare et remarquable, ses œuvres ont été traduites dans une grande quantité de pays tels que la Chine, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Pologne, le Vietnam, le Portugal, et on devrait ajouter encore les deux poètes d'aujourd'hui et la Roumanie. D'une certaine manière, dorénavant, elle est aussi traduite en France. Je suis très émue que ce grand prix national lui ait été décerné. Pour la première fois, c'est une femme qui le reçoit, et par-delà la frontière de la France. Il n'y a pas de frontière pour elle, et il n'y en a pas pour la poésie. Et il me semble qu'à cause de ce choix, le prix prend toute sa signification, car il met dans la lumière ce qui était dans l'ombre. Plus que jamais, je crois que le monde a besoin de poésie, et spécialement de celle d'Anne Perrier. Voilà l'hommage qui lui a été rendu et qui, je pense, résume très bien la résonance en chacun de cette poésie apparemment simple et très profonde d'Anne Perrier. Et je crois que je vais m'arrêter là pour la présentation générale. Il se trouve que les deux traducteurs ont traduit la voix nomade, et qu'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur La Voix Nomade, ce livre central, et qui a été au départ de ce Grand Prix. Je voudrais maintenant vous présenter Déborah Fiette, la traductrice en anglais d'Anne Perrier. Je vous dirai quelques mots de sa formation et de son parcours jusqu'ici. Déborah Fiette est traductrice de profession. Elle travaille à Genève depuis 2000 en indépendante et elle s'est beaucoup intéressée aux arts et à différentes manières de parler de l'art. Elle travaille beaucoup pour la traduction de textes du Musée d'Art et d'Histoire, par exemple. Et peut-être qu'elle complétera ensuite. Aussi à HED, Genève, H-E-A-D, Art et Design, et aussi pour des ONG des Nations Unies. Elle a deux formations et qui vont extrêmement bien ensemble. Elle a une autre formation qu'elle a achevée avant. Elle est restauratrice de tissus anciens et adore la tapisserie. Et comme les textes et les tissus, c'est le même métier, je pense que la traduction de la poésie est une fatalité qui vous est tombée dessus puisque vous aviez ces deux passions. Donc, Déborah Fiette vit depuis 2000 à Genève, et c'est là qu'elle travaille et qu'elle réside. Elle vous dira elle-même comment elle a fait la rencontre d'Anne Perrier. Elle a traduit en anglais, d'anglais en français, non, de français en anglais, pardon, d'abord le livre d'Ophélie. Puis, ensuite, La Voix Nomade. C'est bien juste?
Oui.
C'est cet ordre. Parce que j'ai d'abord lu le livre d'Ophélie, puis La Voix Nomade. Et ces livres achevés, elle a pris contact avec la famille d'Anne Perrier pour demander les droits et faire ses recherches de publication. Et c'est ainsi que j'ai pu, moi, la rencontrer pour répondre à quelques questions et relire son travail et mettre au point l'ensemble de ses poèmes. Je, La Voix Nomade a été choisie par une revue américaine dont elle vous parlera. Et je pense que La Voix Nomade est le livre principal d'Anne Perrier, le livre qui fait la somme de tous ces thèmes et qui est, dans sa forme aussi, la quintessence de ce qu'elle a pu faire. C'est un livre extrêmement important qui correspond exactement à ce que beaucoup attendent de la poésie. Voilà, je crois que je vais donner la parole à Déborah Fiette, à moins que vous vouliez...
Non,
elle va présenter sa traduction, et puis il y aura une petite discussion ensuite. Et on va faire les choses, la même chose pour Mitro, qui vient d'Ukraine. D'abord Déborah, ensuite Mitro, dans le même déroulement. Et Sylviane Dupuis lira en français les poèmes que Déborah Fiette lira en anglais, puis la même chose pour Mitro. Je vous laisse la parole, Déborah.
Merci, Doris. Donc, en fait, j'ai rencontré Anne Perrier parce que, en habitant en Suisse, j'ai trouvé que j'avais bien étudié la littérature française en Angleterre, mais on n'avait jamais étudié la littérature suisse. Et j'ai trouvé ça tellement dommage d'habiter ici et de ne pas connaître que j'ai commencé à lire les différents poètes suisses. Et puis je suis tombée sur le charme des poèmes d'Anne Perrier. Et d'abord, par pur plaisir pour moi-même, j'ai commencé à traduire les poèmes. Et puis après, j'ai osé les envoyer à la famille et puis à Doris. Et puis ça s'est fait à partir de ça. Et donc maintenant, j'aimerais vous parler des difficultés souvent rencontrées dans la traduction de la poésie et comment j'ai essayé de les résoudre dans la traduction de la poésie d'Anne Perrier en particulier. Pour beaucoup de gens, la traduction de la poésie est une tâche impossible. Quand on travaille, on entend dans un coin de la tête des voix qui répètent l'expression italienne « traduttore, traditore », « traducteur, traître ». Ou comme le poète américain Robert Frost qui dit « Poetry is what is lost in translation ». La poésie est ce qui est perdu dans une traduction. Mais il ne faut pas flancher. La traduction parfaite d'un poème est peut-être extrêmement difficile, mais c'est précisément ce défi qui est motivant pour les traducteurs. C'était mon cas, en tout cas. On pourrait même dire qu'une traduction fidèle est seulement possible dans les sciences exactes, comme les mathématiques. 2 et 2 font 4. 2 and 2 make 4. Mais l'acte de traduire la poésie n'est pas un simple jeu de sudoku. Il ne faut pas juste mettre les mots dans la bonne place. Il n'est pas seulement question de traduire les mots, ni de reproduire la mesure. Le sens, les images, les sons et le rythme, tout ensemble, créent quelque chose d'intangible, l'ineffable d'Anne Perrier. Il faut faire naître dans une autre langue, tout naturellement, la musique des mots. Donc comment faire? C'est un très long processus. Moi, j'ai commencé à traduire les poèmes d'Anne Perrier il y a peut-être 3 ans maintenant, je pense. Et puis, je sais que Dimitro, c'était beaucoup plus long encore.
Deux fois plus long.
Donc, au début, il faut se plonger dans l'œuvre du poète pour comprendre le sens fondamental des poèmes. Et ensuite, il est important d'adapter les principaux forces des poèmes, le style personnel, ce qui le rend unique dans la langue originale, pour essayer de produire le même impact dans la langue cible. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire au début. Et puis d'abord, j'ai traduit les poèmes en prose pour vraiment comprendre le sens, et après les mettre en poésie. Je pense que chaque traducteur a une façon différente de travailler. On peut peut-être parler de ça après. À la suite de ce travail, il y a eu, dans mon cas, une longue période de réflexion avec un dialogue enrichissant d'abord avec Doris et aussi avec Paul Roth, un éditeur américain de la revue de poésie The Bitter Oleander. Pour moi, ce dialogue était très enrichissant, très formateur, puisque ça m'a ouvert les yeux à de nouvelles possibilités. Je pense que c'est très bien de collaborer avec d'autres traducteurs ou les éditeurs pour la traduction de la poésie, parce qu'il y a autant de traductions qu'il y a de traducteurs, en fait. Il n'y a pas une seule version possible. Et je pense qu'il faut être très ouvert à d'autres idées. Mais ce dialogue m'a aussi permis de confirmer mes choix, des fois, mes propres idées. Maintenant, pour parler de la poésie d'un Perrier en particulier, ces poèmes sont marqués par la brièveté des vers, hein, presque comme des haïkus japonais, et le langage est d'une simplicité trompeuse. Comme écrit Antonio Rodriguez au sujet de la poésie d'un Perrier dans sa préface de cette édition de 2011 des poèmes d'un Perrier, les mots doivent être sous-pesés, car ce qui est à dire est si infime que le langage pourrait paraître épais pour le dire. Donc je pense pour la traduction de ces poèmes, il faut que les mots soient aussi des poignées de grains jetées au vent, des étincelles, comme dans ces poèmes. Donc avec l'éditeur, nous avons beaucoup travaillé ensemble pour essayer d'éliminer le superflu, pour faire une traduction épurée, sans avoir dit un mot de trop, comme un Perrier dit dans Heure. Parfois, ceci s'est produit tout naturellement. Mais il y avait plusieurs mots inutiles, c'est vrai, dans les premières versions, ce que l'éditeur appelait des dos d'âne, parce qu'il trouvait qu'il ralentissait le rythme des vers. Et souvent, c'était des œufs, des dates qui n'étaient pas nécessaires. Pour vous donner un exemple, quand j'ai traduit « J'ai retrouvé par hasard sous les feuilles ma petite flûte d'enfant et je sais que tout près d'ici », j'avais commencé par « I found by chance under the leaves my small childhood flute and I know that very near here » et au fil du temps, ça s'est devenu « Under leaves by chance I found my small childhood flute » And I know, close by. Donc cette solution, nous avons trouvé, ça élimine le superflu et est beaucoup plus joli en anglais. Nous avons aussi eu beaucoup de discussions concernant le cas possessif en anglais, des of the ou des apostrophes s, des s apostrophes. Par exemple, et le fruit doré de gazelle. Moi, j'avais proposé très littéralement and the golden flight of gazelles. L'éditeur voulait mettre « And their golden gazelle flights », que je n'aimais pas du tout avec le « gueugue » de l'allitération. J'ai trouvé ça trop dur, donc j'ai pu le persuader de faire le contraire. Mais des fois aussi, je trouvais qu'il avait raison. Pour donner encore juste un exemple, pour traduire « La fraîcheur sucrée de la figue mûre », Finding inside the sweet freshness of a ripe fig, or finding inside a ripe fig's sweet freshness. Je trouve que le deuxième, ça semble souligner la fraîcheur, même si c'est pas la même chose que dans le français. Et ça, c'est un bon exemple de changement qu'on doit faire des fois dans l'ordre des lignes pour faire quelque chose qui est plus joli dans la langue cible. Il y avait d'autres éléments de la poésie d'un Perrier qu'il fallait prendre en compte. Pour moi, c'était très important de respecter la forme des poèmes, le nombre de lignes, l'architecture des poèmes sur les pages, qui n'est pas due au hasard. Hein. L'espace, le silence entre les poèmes nous donne un temps de réflexion. Et ce silence est plein de contenu. Ceci n'est pas toujours facile à communiquer à un éditeur, qui, par exemple, dans une revue, n'a pas beaucoup de place. Hein. Donc, c'est tout à fait compréhensible aussi. Mais je trouve que les poèmes perdent un petit peu de leur magie sans ce silence. Pour moi, il a aussi été crucial de faire renaître les riches effets sensoriels des images, des images sonores. Par exemple, tout ce vacarme de mouette, all this racket of gulls. Donc, les sons stridents. Le racket et vacarme sont importants de garder. Dans le même vers aussi, il y a « Cependant qu'au-delà des mers, sombris, j'ai offrié mur, embaume l'île entière. While beyond the seas, soundlessly, a ripe clove tree fills the whole island with scent. » Et là, j'avais beaucoup travaillé la littération de son S, de ce, pour exprimer le silence d'Anne Perrier. Malheureusement, je n'ai pas le temps, je pourrais parler très longtemps des images très riches dans la poésie d'Anne Perrier, qu'elle rend encore plus fort par les effets de style. Mais je voulais juste vous dire que j'ai beaucoup travaillé pour garder ces effets dans l'anglais. Ce que j'ai trouvé aussi chez Anne Perrier, je lui ai très reconnaissante, c'est que certains aspects de sa poésie rendent la tâche du traducteur plus facile, moins contraignant. Au fil des années, Anne Perrier s'est libérée des formes traditionnelles pour écrire en vers libre, sans ponctuation. Donc ça c'est déjà plus facile pour les traducteurs. Et comme Philippe Jacoté dit, le rythme est accordé aux nuances du souffle. Le nombre de syllabes varie. Ces vers se distancent de la poésie française quantitative. On compte les syllabes et se rapprochent en fait de la poésie des pays anglophones avec ses accents. Donc pour moi, peut-être pas dans le podcast, c'était plus facile. Les rimes, quand ils sont présents, sont très libres. Philippe Jacoté encore parle d'un réseau discret de rimes. Et j'aime beaucoup ce qu'écrit André Despons dans la poésie d'Anne Perrier à l'occasion de la remise du prix Rambert en 1971. Les rimes adoptent librement toutes les dispositions possibles, sans refuser le concours de simples assonances, et sont toujours exclus de la société quelques ouvriers de la 11e heure qui ne riment à rien. Dans ma traduction du livre d'Ophélie, J'ai fait rimer les vers qui ont été où il y avait des rimes dans le français, mais pas forcément les mêmes paires de lignes. J'ai trouvé, parce qu'il n'y avait pas de disposition rigide dans l'original, que je pouvais prendre cette liberté-là. Occasionnellement, un père y emploie des rimes suivies, comme dans le dernier poème d'adieu dans le livre d'Ophélie, pour créer un effet de conclusion. Et donc j'ai fait pareil dans l'anglais. In the reed beds, hushed is the day. Time lapse, I stray around my beautiful adieu. A pale bird in the blue hastens its flight. On the black waters, the fireflies set death alight. Et les quatre dernières lignes de la voix nomade forment des rimes embrassées, A, B, B, A, que nous allons entendre après, on va lire ce poème-là après. Aussi, quand les cultures sont similaires, la traduction est forcément plus facile. Le français et l'anglais ont des termes plus ou moins équivalents pour les divers aspects de la culture. Je suis sûre que Dimitri va parler des problèmes avec l'ukrainien, c'est sûrement pas la même chose. Mais pour les anglophones, les traducteurs anglophones, il faut toujours faire le choix entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Et donc ça dépend bien sûr de la langue maternelle, mais aussi du choix d'éditeur. Donc des fois, on est obligé de s'adapter aussi. Mais il y avait un problème que je voulais parler, c'est entre le français et l'anglais, c'est la position des adjectifs. Anne Perrier les utilise des fois comme un élément de surprise à la fin d'un vers, hein, pour créer un effet d'oxymore ou de paradoxe. Et des fois, c'était possible de les garder au même emplacement. Par exemple, dans la splendide brume inconnue, in the splendid mist unknown, c'était tout à fait plausible. Mais il y a d'autres fois, ce n'était pas possible de garder le même ordre. Par exemple, dans Heure, la libellule en gloire semble attester que vivre est une royauté fragile. La force, beaucoup de la force de ces lignes, pour moi, se trouve dans l'adjectif final, isolé du reste du vers. En anglais, un tel ordre de mots n'est pas possible. Je ne peux pas dire that life is a monarchy fragile. Ça n'a aucun sens en anglais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? J'ai donc décidé de placer fragile à côté de monarchy dans la dernière ligne. Les deux mots rapprochés gardent la force de l'antithèse originale, même si l'effet de surprise est réduit. Et malheureusement, il y a souvent des compromis comme ça qu'on est obligé de faire. The dragonfly in glory seems proof that life is a fragile monarchy. Il est aussi important de se rappeler que la traduction est plus difficile si l'original est écrit dans un passé lointain. Dans ces cas, le traducteur doit choisir soit de refléter le temps où le poète a vécu, ou de transposer son œuvre dans la langue et le moment présent. Donc, dans le cas d'Imperi, et avec d'autres poètes contemporains, ceci pose moins de problèmes pour les traducteurs. En conclusion, je voulais simplement dire que la traduction est vraiment une passerelle entre les cultures. Pour faire connaître l'œuvre d'un poète auprès de ceux qui ne comprennent pas sa langue, nous sommes obligés de le traduire. Ce qui m'inspire et m'encourage dans mon travail, c'est à savoir qu'Anne Perry elle-même a traduit des poèmes. Elle a essayé du portugais et puis aussi du japonais, apparemment d'après une traduction anglaise, et aussi de l'anglais. Elle pense les poèmes d'Emily Dickinson, elle a travaillé dessus. Donc pour Anne Perry elle-même, ce n'était pas un exercice inutile. Contrairement à Robert Frost, je préfère croire, comme Joseph Brodsky, le poète russe et prix Nobel de la littérature, poetry is what is gained in translation. La poésie est ce qui s'obtient dans la traduction. Je saisis cette occasion pour vous remercier, Doris, pour votre écoute, votre soutien et tous vos encouragements. Et puis, je voulais dire que cela a été pour moi un privilège et un plaisir de collaborer avec vous et à travers son œuvre avec Anne Perrier. Merci.
On va peut-être vous applaudir.
Donc, je sais pas si on
je pense vu. Que pour éclairer cela, le mieux c'est de passer à la lecture.
D'accord.
Et on peut discuter, vous pourrez poser des questions plus tard. Mais je pense qu'il faut qu'on entende ces deux voix. Mm-hmm.
D'accord. Donc, des extraits de la voix nomade. Pour aller jusqu'au bout du temps, quelles chaussures, quelles sandales d'air. Non, rien, ô tendre jour, qu'un mince fil d'été autour de la cheville.
To go to the end of time, what shoes, what sandals of air? No, nothing, O tender day. Just a fine thread of summer around my ankle.
L'âme bleuie de froid, quelle surprise pour la mort qui l'ouvrira d'y trouver la fraîcheur sucrée de la figue mûre.
The soul blue is cold. What a surprise for death, who will open it to find inside a ripe fig's sweet freshness.
À mon poignet, trois pierres, chaque matin se baignent dans le ciel, trois pierres de lune, et le ciel est pris pour la prière et pour la rêverie.
On my wrist, three stones, each morning bathe in the sky. Three moonstones, and the sky is taken for prayer, for reverie.
À la fin de la traversée, m'attend la souveraine saison. Sous ma tête, le sable chaud du long sommeil, une pelisse d'étoiles sur mon ombre humaine.
At the end of the crossing, the sovereign season awaits me. Under my head, the hot sand of long slumber, a pelisse of stars over my human shadow.
Ce là-bas, ce champ, cette aube, cet envol de ramier, cet horizon comme un jardin qui repose dans la lumière et les aromates.
This over there, this song, this dawn, this flight of wood pigeons, this horizon like a garden that rests in light and aromatic plants.
La seule tristesse, c'est de savoir que les jours s'ouvriront comme des lys au fond du temps, que l'amour dans le cœur de l'homme continuera de déployer ses roseraies, que la beauté comme la guerre embaumera les pas du voyageur, et que sous tant de fleurs, j'aurai les yeux remplis de terre.
The only sadness is to know that days will open like lilies in the depths of time, that love in man's heart will continue to unfurl its rose gardens, that beauty, as in former days, will send to the steps of travelers, and that under so many flowers, my eyes will be filled with clay.
Voilà. Une des discussions que nous avons eues souvent, Déborah et moi, concernait les mots qui sont les mêmes en français et en anglais. Comme rêverie, par exemple, vous voyez dans le poème « À mon poignet, trois pierres, chaque matin se baigne dans le ciel, trois pierres de lune et le ciel est pris pour la prière et pour la rêverie. » Et c'est « for prayer, for rêverie ».
Oui, c'est vrai, je sais que Doris, vous n'étiez pas sûre que je pourrais utiliser les mêmes mots en anglais. Mais en fait, moi, je trouve que c'est tout à fait possible et ça garde la même musique dans l'original.
Oui, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs pour garder ça. Vous avez supprimé le « et ».
Oui.
Parce qu'on a pour la prière et pour la rêverie.
Oui.
Et en supprimant le « et », on a quelque chose qui And for reverie aurait été très différent de for prayer, for reverie. C'est au fond ce jeu sur le. On peut garder le même mot, il faut garder peut-être un parallélisme et peut-être supprimer le mot qui, au contraire.
C'était plus plat en anglais avec.
Avec le and.
Avec le and. Oui.
Donc moi j'ai discuté du mot semblable, mais en fait le problème peut-être n'était pas tout à fait là. Il était dans la structure de la phrase. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qu'on a souvent discuté.
Oui, c'est vrai.
Je l'ai toujours laissé, bien sûr, son choix, quand on est sûr qu'on a pu soupeser toutes les possibilités et que employer le mot « dream » nous aurait conduit à toute autre chose.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ça n'a pas tout à fait le même sens.
Non, justement, on aurait été dans un mot différent de racine, mais on aurait amené un plus et quelque chose de plus précis qui aurait détruit le pouvoir de ce poème.
C'est singulier parce qu'à la lecture, c'est exactement l'endroit où je me suis dit, l'anglais, c'est presque encore mieux que le français. C'est deux vers. De tout ce que j'ai. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui, dans ces deux forts, qui donne quelque chose d'une beauté magnifique. Oui. Quelquefois, c'est la langue d'arrivée qui.
Il faut pas grand chose.
C'est ça. Mais c'est drôle, c'est juste là que je me suis dit exactement.
J'ai aussi toujours buté un peu sur la pelisse d'étoiles.
Oui.
Une pelisse d'étoiles.
Oui. J'ai cherché pour voir s'il y avait un autre mot, un fur-lined coat. n'aurait pas le même effet du tout dans la poésie. Et en fait, Pelli, c'est tout à fait possible. Et j'ai beaucoup aimé la littération, un peu Police of Stars.
Voilà.
Je trouvais que c'était
justement
très
là que la littération, Police of Stars, n'était pas du tout présente dans la version française, enlève ce que pourrait avoir le mot d'un peu précieux.
Et j'aimais bien l'idée de douceur que ça donnait aussi en anglais, de garder ça. Oui.
Et ça, c'est toutes ces choses extrêmement intéressantes de savoir par où la musique passe, ou par où l'oreille est la plus fine.
C'est ça, la musique de la poésie, quelque chose de magique, ineffable. Voilà, ça, c'est le mot d'intérieur.
Tout à fait. Moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je ne sais pas si Diane, tu voudrais ajouter quelque chose, ou vous, Mitro. Pas encore. Alors je crois qu'on va passer à vous, et puis on reprendra peut-être une discussion plus générale ensuite.
Voilà, alors nous avons le très grand plaisir d'accueillir Mitro Čistiak ici, qui est donc en transit par Bruxelles, qui rentre demain matin très tôt à Bruxelles et qui retournera à Kiev aussitôt après. Il nous vient donc de Kiev, d'Ukraine, né en 1987, et pourtant il a déjà derrière lui une bibliographie tant personnelle que de traducteur et d'articles sur la poésie tout à fait impressionnante. Il faut savoir que Dmitro a effectué plusieurs stages d'été en France durant son adolescence. Il fait partie de ces jeunes Ukrainiens qui sont venus en France profiter un petit peu de l'air d'Europe, loin de Tchernobyl. Et au moins, à quelque chose, malheur est bon quelquefois, puisque fuyant un petit peu Kiev, il s'est retrouvé en pays français et il est entré dans la langue française d'une façon tout à fait extraordinaire. Il a un très très beau français, il est très bilingue. Donc il a fait des études de philologie romane à l'université de Kiev. Il y a préparé un doctorat sur les mythes antiques dans le théâtre de Maurice Maeterlinck, qui est donc un auteur belge symboliste, et il s'intéresse beaucoup à cette littérature belge et symboliste, tout en enseignant le français et la théorie de la traduction, et en poursuivant ses activités d'écrivain lui-même, de poète et de traducteur littéraire. Il y a là un exemple assez extraordinaire d'un des résultats de la PIJA, c'est-à-dire ce prix des jeunes auteurs autour duquel nous avions une soirée hier soir. C'est donc les éditions de l'Herbe qui publient chaque année une sélection, tous les deux ans, je ne sais plus. Enfin, les éditions de l'Herbe publient tous les deux ans une sélection de textes avec un premier prix de jeunes auteurs francophones, soit de langue maternelle française, soit de langue maternelle française apprise. Et c'est un concours qui couvre absolument toute la francophonie. Et Mitro a participé à ce concours avec son premier texte et il a gagné le premier prix. Il s'est retrouvé donc à Dijon, c'était donc ceci en 2008, publié aux éditions de l'Ebe. Et donc, voilà, comment se font les choses. Son voyage à Genève, ici, vient en quelque sorte boucler la boucle d'un rapport à la francophonie tout à fait riche, en dépit de son jeune âge. Ses traductions et articles sur Maeterlinck et Verheeren viennent d'ailleurs de lui valoir une récompense très importante en Belgique. Vous avez sous la main le petit papier. C'est donc
le prix. Hein. Moi, je le chercherai.
Voilà, c'est donc la Wallonie-Bruxelles, enfin la. Qui vous a attribué ce prix,
c'est la région Wallonie-Bruxelles.
Région Wallonie-Bruxelles, en fait,
c'est la communauté française de Belgique.
Voilà, c'est ça. Et c'est Jean de Lecker, donc, qui a remis ce prix à Dmitro, qui est un prix extrêmement important de traduction. Il est donc traducteur de Marguerite Yourcenar, de Maurice Maeterlinck, de nombreux poètes francophones dont Paul Verlaine, Liliane Wouters, qui est belge également, Yves Bonnefoy, Anne Perrier, vous vous en rendez compte, mais aussi d'autres écrivains anglais, polonais, slovènes. Il a également traduit avec Ivan Riabchi, qui est également de Kiev, un livre de poèmes d'Oleksiy
Dovhyi,
pardon, Le calice des roses, publié en 2010 chez l'Harmattan. Il est chez lui prix national de poésie, prix de traduction, enfin je ne vais pas énumérer, c'est tout à fait impressionnant. En 2012, un recueil de poèmes bilingues franco-ukrainiens a paru aux éditions Christophe Chaumont à Rouen, et l'exergue, je voulais vous le dire, est de Gustave Roux. C'est aussi un des grands amours de Mitro, que ce poète que nous admirons tant en Suisse romande, qui a été le maître en quelque sorte de Jacotet, de Chesset, enfin, qui est la grande référence des poètes de la génération de Jacotet, et qui est aussi une admiration de Mitro, et qui va peut-être le traduire un petit peu.
J'espère bien.
Voilà. Alors, peut-être juste deux mots encore sur sa thèse de doctorat qui s'intitulait « Études
linguopoétiques
de l'intertexte mythologique dans le premier théâtre de Maurice Maeterlinck, 1889-1894 ». Il enseigne donc actuellement à l'Université de Kiev et la langue française et la traduction et la théorie de la traduction. Voilà, il a également traduit des films francophones à la première chaîne de la télévision nationale, chez lui. Enfin bref, voilà, je m'arrête parce que les prix et les activités de Dmitro sont absolument innombrables. Il a reçu le prix de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine en 2008, la bourse du gouvernement ukrainien pour l'ensemble des activités littéraires et scientifiques en 2011, et donc cette année le prix de traduction par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà. C'est donc quelqu'un qui nous honore beaucoup et de sa présence et du fait qu'il s'était intéressé à Anne Perrier de façon extrêmement profonde. Voilà, je lui donne la parole en la remerciant beaucoup.
Je vous remercie, Sylviane, pour cette éloge, évidemment trop élogieuse, mais je suis très content d'être parmi vous, parce que la poésie d'Anne Perrier, c'est une longue quête, expérience que je vis depuis 6 ans. C'est vrai que c'est une poésie tout à fait à part dans le paysage francophone contemporain, une poésie qui ne s'ancre pas du tout dans le paysage français, par exemple, mais par contre qui est très liée au paysage littéraire francophone suisse, et c'est ça qui fait sa nouveauté. Moi, je pense que je vais vous lire présenter un petit exposé sur Anne Perrier en général, sur la sémantique mythique de ces textes, parce que c'est quand même très important de voir quel est le fondement de son imaginaire et le développement de cet imaginaire dans les deux recueils que j'ai traduits, c'est « Feu les oiseaux » et « Le livre de Félie ». Et comme ça, vous aurez aussi bien l'image de ces recueils différents. Et je parlerai après quelques mots juste parce que la langue ukrainienne est quand même très éloignée du français, et je pense que vous ne prendrez pas autant de plaisir à l'analyse des textes en ukrainien. Je vais vous citer juste quelques exemples et lire les traductions. Alors, dans l'une de ses notes sur l'écriture, et précisément dans « Mise en voix », Anne Perrier citait Paul Valéry qui, lui, suggérait à la poésie d'être le paradis de la langue. N'est-ce pas ici le rêve de tout écrivain, un rêve qui se réalise pourtant chez tout véritable artiste d'une façon différente? C'est là aussi le rêve de tout traducteur littéraire, créer un paradis des mots justes, le jardin prime où se retrouveraient l'auteur et le lecteur. Parfois, cependant, dans des traductions peu adéquates, on a l'impression de traverser tous les cercles de l'enfer de Dante. Vous me demandez de résumer d'une manière fort succincte les jours où on partage avec la parole d'Anne Perrier. Bon, j'ai déjà dit une aventure qui dure depuis 6 ans. De résumer donc Eternity in an Hour, d'après la formule de Blake. Et tout de même, je vais tâcher de vous livrer quelques considérations, mais vite fait. Alors, l'œuvre d'Anne Perrier est d'un lyrisme fervent et épuré, c'est ce qu'ont souligné dans le programme les organisateurs de cette soirée. Et ils ont raison, ma foi, mais il serait opportun de se rappeler maintenant quelle est l'essence et la genèse du lyrique comme forme littéraire. Dans la poésie antique, que cela soit la mélique grecque ou le haïku japonais, les poèmes lyriques portaient à fixer ces instants d'une émotion intense ou d'une méditation profonde qui semblait suggérer la sortie de l'existence profane vers un au-delà qui transparaissait dans les images de la vie fugitive lorsque, par la création individuelle, on aurait été tenté de croire le poète uni à l'énergie créatrice de l'univers. En effet, le narrateur de la poésie antique semble vouloir retrouver l'harmonie perdue avec l'âme du monde par le biais des images qui la nomment, l'évoquent, qui restaurent l'unité perdue originelle. Si au temps du syncrétisme mythologique, l'image poétique et le sacré transcendant ne faisaient qu'un, le leur était Apollon, par la suite l'image est passée au rang du symbole en tant qu'équivalent partiel du divin, la vigne évoquée par Christ. Puis elle est devenue une figure stylistique du pôle métaphorique avec un lien allusif, ainsi une rose face à la nuit, face aux faucheuses, image que l'on retrouve chez Anne Perrier, suggère la transcendance des ténèbres, le signe de l'immortalité, par un lien allusif avec le symbolisme chrétien. Souvenons-nous que la rose était la fleur de la Vierge Marie. Si je me suis permis un bref retour vers l'Antiquité, c'est que dans la plupart des études mythopoétiques contemporaines, on atteste que chaque texte littéraire est généré par les images originelles de la mythologie universelle. On aurait raison de souligner qu'Anne Perrier est une poétesse de la seconde moitié du XXe siècle et que nous avons traversé le seuil du XXIe et que plus de 26 siècles nous séparent des poèmes de la mélique grecque, par exemple. Mais des centaines de courants et de théories littéraires ont sillonné le paysage de la poésie moderne. Des milliers de grands auteurs ont créé leur univers tout à fait à part. Et pourtant, le procédé de la poésie lyrique, chez Anne Perrier surtout, nous semble immanent. C'est qu'elle pourrait attester, comme l'a fait Maurice Maeterlinck, que la première idée d'un texte est de donner une impression d'éternité. En effet, l'imagerie d'Anne Perrier atteste un conflit intérieur entre la vision d'un monde dégénéré aux termites anthropophages et aux jardins paradisiaques où fleurissent les glantiers et l'âme humaine, éclairée de beauté. Cependant, l'aversion envers les ténèbres de ce monde, tout comme la sensation du fait que sa beauté ne peut être que le reflet de quelque chose de bien plus lumineux encore, génère chez notre héroïne lyrique la pulsion vers l'au-delà qui se meut jusque dans les images les plus habituelles, par des moyens allusifs que le traducteur doit relever et adapter d'une manière adéquate dans la langue d'arrivée. Je tâcherai donc de montrer, à partir de quelques exemples, la progression de cette prise de conscience dans les deux recueils, Feu les oiseaux et le livre de Félie, les recueils que j'ai eu un grand plaisir de traduire. Le recueil Feu les oiseaux regroupe les poèmes des années 1972 à 1975 qui, par leur forme trilinéaire, rappellent les haïkus classiques japonais. Le premier poème expose d'emblée le conflit qui se déroulera au cours de tout le livre.
Si le monde était un raisin transparent, qui survivrait ?
А ну, коли виживе світ виноградна прозора брость. On y devine la tension intérieure du narrateur entre la finitude du monde et son éternité, la fin de la matière et l'immanence de l'esprit. L'image du raisin qui se réfère au monde est significative. C'est là une allusion au panthéisme païen ou à l'image symbolique du Christ à la vigne. Le monde personnifié en Dieu ne peut être détruit, à supposer encore que ce Dieu ne soit pas mort, comme l'a déclaré Nietzsche. Au fil des images qui se développeront dans les recueils, la question initiale trouve une réponse affirmative à une condition près,
vivre et chanter en empathie profonde avec l'instant présent, émanation du feu sacré, cher à Platon, à Empédocle, à la lumière divine louée par Plotin et la patristique. Les images de la vie fugitive, grâce à leur potentiel symbolique, trouvent un référent sacré. La neige a des ailes d'un ange, l'âme tombe comme une pierre après la résurrection du Christ, les colombes après la mort évoquent le Saint-Esprit, et les êtres de ce monde-ci progressent de plus en plus vers la lumière du soleil et la clarté céleste. L'abeille est toujours plus transparente, l'oiseau mort se dote d'une exultante blancheur, une âme radieuse expose au soleil la narratrice, l'amour est un envol vers les cieux de l'être aimé. Par ailleurs, le ciel, par métonymie liée à la couleur, connote de sacralité la mer, qui est aussi une mort et un passage vers l'éternité. Je flotte dans un cœur trop grand, où est-ce la mer, la mort déjà qui me prend. Я в завеликому серці у плині, чи море огорне, чи смерце. La mort dans la mer, dans ces bosquets de corail, perd alors son aspect négatif. Elle est dissolution et union à l'univers aquatique. Si ces images suggèrent la présence du sacré dans ces émanations terrestres, c'est pour atténuer le conflit entre la beauté de l'instant présent et le sublime du passage vers l'au-delà. On retrouve en effet dans le texte de nombreuses louanges à la vie, comme dans l'extrait ci-joint.
Que rêves-tu, ma vie ? Que rêves-tu captive entre les murs de safran ?
Про що життя мрієш там? Про що життя мрієш брам? Обавить шмур шафран. Mais comme les images élaborées par l'auteur suggéraient la présence du sacré dans toute chose et dans la voix qui sert d'intermédiaire avec l'anima mundi, l'apothéose du poème est la dissolution de l'oiseau-feu dans son éclat divin dans le ciel retrouvé.
Si j'erre, si j'ai soif, je creuserai des puits dans le ciel, et nous boirons de cette eau jusqu'à en mourir.
А зі спраги жаги розкопаю криниць в небесах, і нап'ємося доле тоді, нап'ємось ми води, аж доки загинь. On a déjà vu comment se sacraliser le symbolisme aquatique dans « Feu les oiseaux ». L'épanouissement de cette imagerie se développe dans le livre d'Ophélie, Areque dont le nom déjà suggère la mort dans les ténèbres bleues. Étrange métamorphose que celle de la bien-aimée de Hamlet shakespearien. Si dans le recueil précédent on se promenait dans un exquis jardin de clarté avec les ombres à peine distinctes, l'univers ophélien est apocalyptique. La Genèse décomposée, la terre couverte de plaies, n'est pas uniquement la marque d'une raison chancelante, elle est réalité. Son chant orphique, le siècle le blesse à mourir, c'est le temps des termites anthropophages, des sources asséchées, des hydres du temps profane et des marginaux poétisants qui essaient de restaurer le sacré dans un monde du simulacre.
Nous sommes les derniers Indiens, nous sommes des papous, l'époux d'un monde antédiluvien. Un oiseau mort depuis longtemps chante pour une étoile éteinte.
Ми останні індіанці, папуаські голодранці, ми блохня на давніх ланцях, десь у прадідівськім трансі, здохлий птах із давен-давна, зірці згаслі заспівав нам. Cependant, Ophélie, dans ce monde crépusculaire, reste la porteuse de lumière. Ses blessures la brûlent et l'éclairent de l'intérieur. C'est par eux qu'elle communie avec la lumière de l'au-delà, cette lumière qui, par une image métaphorique, devient une banderille d'or qui perce le front du temps ou vole comme des lucioles qui mettent la mort à feu. En effet, l'entropie des ténèbres, dans ce recueil de poèmes, augmente et transforme l'univers ophélien en une sorte d'Hadès aux ombres errantes dans le noir, ou un avatar de Sodome biblique menacé de destruction. Mais dans un monde où la beauté se fait de plus en plus précaire, la poétesse atteste la pérennité de la beauté du moi intérieur.
Bâtissez-moi un grand tombeau, une haute fontaine. Je vous dis que rien n'est trop beau pour ton sommeil, ô longue peine de vivre, que nulle eau n'est assez pure pour atteindre En moi, le ciel profond n'est assez fraîche pour éteindre ces soifs qui détruisent le corps, ces feux qui brûleront les portes de la mort.
Зведіть мені високий водограй, мавзолей величний, та світова краса не постира цей сон життя у болю довговічний. Та як і прийде вже моя пора, то найчистішим водам не дійти до глибу внутрішніх небес, та найсвіжішим водам не знести палкої спраги, що є твоя трить, хай тим вогням зітер ворота смерть. L'émerveillement aquatique d'Ophélie dans ce contexte subit une métamorphose dont on trouve les prémices dans Feu les oiseaux. La dissolution dans l'univers hydrique est une extériorisation des cieux profonds de moi, ces cieux où brûle le feu divin. Il est significatif que la noyade d'Ophélie se double des images ornithologiques. Rossignol noir, merle pris dans les filets, autant que des avatars de l'aspiration à rejoindre le monde céleste. Celle qui chante est un être aux confins des eaux et des airs, tout en les transcendant.
Moi, l'envolée, j'ai perdu dans les airs la trace des oiseaux. Moi, l'écoulée, en dormant, j'ai perdu la voix des passeurs d'eau. Je suis le chant qui s'en va tout seul. Entre terre et ciel.
Я одлетіла, згубила у леті далекі шлейфи птахів. Я отструміла, у сниві згубила гук стернових голосів. Я власновільний спів ні звідкіль при небесах і землі. Dans ces moments de là du temps, Ophélie retrouve l'essence du chant même, un concept clé que l'on aurait tort de définir dans ce contexte uniquement comme l'émanation suprême du moi. Il serait plutôt opportun de souligner que cette accentuation de l'indépendance du chant vis-à-vis des réalités terrestres et célestes atteste sa transcendance du monde physique, sa communion avec le soi universel, ou pour prendre une appellation plus appropriée dans l'hindouisme, c'est l'atman devenu Brahman. Le processus même de la création infiniment renouvelé. On relèvera le point culminant du recueil, après l'émerveillement par la beauté du monde retrouvé à la lueur de l'âme universelle, Ophélie prend conscience du fait que les images symboliques du monde paradisiaque ou infernal n'étaient en fait que les émanations de sa conscience individuelle au contact du divin. En vérité, l'instance suprême qu'elle tend à retrouver se trouve au-delà de toute imagerie. C'est le flamboyant rien, l'un de Plotin, le néant malherméen, le rien qui est en même temps le tout.
Comme les voyageurs s'en vont pour ne plus revenir, comme les papillons regagnent pour mourir les grands vergers mûrs des étoiles, je pars vers le flamboyant rien.
Як мандрівці виходять у світ, бо не можуть назад, як метеликам смертний політ, зірковий вершиться сад, так і я у сяйливе ніщо перелину собі. L'image de l'Ophélie immortalisée dans les eaux retrouve les accents que lui a dicté l'imagerie de son voyage initiatique.
Jardin de la douleur, saigné loin de ma tombe. Ici, tout n'est qu'ombre et splendeur, et gorge de colombes. Elle dort, Ophélie, au fond des marbres verts, de l'or plein les pupilles, et dans son cœur la mer.
Vine krivav te tlí, sady mojej muki, nechaj krasa prebude i тінь, і шиєчка голубки, під зіллям мармуровим Офелія вже спить. У серці плеще море, в очах золотить. Tout au long du recueil, Ophélie était brûlé de l'intérieur par un feu divin et à la fois bien terrestre. Il contenait l'éclat d'une âme pure et la douleur d'un monde en péril. Après une noyade initiatique, ses yeux se remplissent d'or, symbole de l'âge de Saturne, mais aussi de la toute-puissance de la pierre philosophale, qui évoque la dissolution alchimique du moi dans le soi, l'œuvre rouge. Notre court parcours des recueils significatifs d'Anne Perrier, semble-t-il, atteste que l'imaginaire de la poétesse tout en étant original dans son expression, retrouve l'imagerie sacrée mythique. Une traduction adéquate en langue étrangère nécessite une lecture plurielle. La délimitation des entités symboliques dans les connotations des signes linguistiques dont nous n'avons dévoilé que quelques aspects, faute de temps. Un autre problème que nous ont posé ces poèmes, c'est la traduction adéquate de leur structure phonique. Il est opportun de se souvenir que, pour Anne Perrier, la mélodie intérieure était primordiale. En effet, les rimes intérieures sont assez fréquentes, et les garder dans la langue d'arrivée était une tâche difficile, mais nous pensons y être arrivés. Par ailleurs, Anne Perrier soulignait le fonctionnement de l'image phonétique qui relève du symbolisme phonétique, lié au fonctionnement sémantique de l'image. Si on ne trouve pas d'exemple d'anagrammatisme si cher à notre grand Suisse Ferdinand de Saussure, il est vrai que la forme phonique du message est inséparable de son effet sur le lecteur. Ainsi, dans le poème suivant du livre de Félie, on distingue nettement l'amplification des consonnes M et L qui créent l'effet d'un glissement contuel de plantes, son lugubre « e » et de l'eau de la noyade proche.
Qu'un saule blanc soit mon linceul, un saule la trame dorée des phalènes d'été, sur ma plainte qui s'en va seule à la rencontre des oiseaux immémoriaux.
Pour créer le même effet, nous avons adopté le même consonantisme en ukrainien tout en changeant les voyelles O et E en I et A qui sont plus appropriées à créer le même effet dans le symbolisme phonétique ukrainien. Хайверне гілля саваном набіл, нічина біла й золота, метелик літні проліта, понад самотнім голосінням ні звідкіль, до виспіву птахів, яким нема віків. Vous l'aurez deviné, cette petite intervention ne se veut guère une lecture exhaustive de l'œuvre d'Anne Perrier. Elle dérive d'une conception bien connue, elle ne découvre certes que l'une des facettes de cette poésie riche en images symboliques et par conséquent inépuisable. Pour conclure, je préfère donc vous citer un poème qui me semble particulièrement humaniste, puisqu'il donne aux arpenteurs de l'infini une vision enthousiaste de ce monde. Та намарне домівки чекання, усе безбережне, таке нетривке це тривання, пливеш по річці і вустами вбираєш окіл зірковий.
Oui. En vain chercherons-nous sur le rivage une demeure, nous ne sommes que de passage, et glissons sur un fleuve à la gorge ouverte, entre les astres.
Alors, je ne sais pas, il faudrait qu'on lise encore quelques poèmes, hein, n'est-ce pas?
Donc nous lisons encore, pour terminer, quelques poèmes en français et en traduction ukrainienne, tirés du livre de la voix nomade, cette fois. Ce chant trop lourd, je laisse à la nuit son poids d'ombre, et le reste, je le donne à l'espace, qui le donne à l'oiseau, qui le donne à l'ange éblouissant.
Спів заважки. Залишу я темряве ярмо й оночі, решту ж віддам просторінні, та птаху віддасть, а той янголеві сяйному. On va aussi dire la version anglaise, hein, comme ça, en trois.
C'est ça.
Oui.
This too heavy a song, I leave to the night its weight of shadow, and the rest I give to space. Who gives it to the bird? Who gives it to the dazzling angel?
Ne me retenez pas si, au détour du chemin, tout à coup, emporté vers les sources du jour, j'escalade le champ du merle.
Не спиняйте мене, Коли мені в це нараз піднімуся за співом дрозда, звившись до кирниці дня. C'est la bonté.
La bonté. Mm-hmm. Do not hold me back if at the bend in the path, suddenly, swept towards the day's sources, I climb the blackbird's song.
Et le dernier poème de la voix nomade. La seule tristesse, c'est de savoir que les jours s'ouvriront comme des lys au fond du temps, que l'amour dans le cœur de l'homme continuera de déployer ses roseraies, que la beauté comme naguère embaumera les pas du voyageur, et que sous tant de fleurs, j'aurai les yeux remplis de terre.
О, смута ж єдина, знаття, що розкриються дні лілеями в час, знаття, що любові у серці людським таки розквітати, садами і з руж мандрівцям шляхи хороші, красі, як раніш пахтіть, вище все квіті, квіть, очі ж мені запорошать.
The only sadness is to know that days will open, like lilies in the depths of time, that love in man's heart will continue to unfurl its rose gardens, that beauty, as in former days, will scent the steps of travellers, and that under so many flowers, my eyes will be filled with clay.
Quelques questions à Dmitro, puis si vous avez des questions aussi à l'un ou l'autre des traducteurs, n'hésitez pas à les poser. Alors d'abord, je voulais vous demander au fond, pourquoi Anne Perrier, qu'est-ce qui a fait tout à coup que le coup de foudre s'est produit avec Anne Perrier?
Mais c'était tout à fait imprévu, hein, en fait. Il y a 6 ans, je regardais un peu tout ce qu'il y avait comme poésie dans un rayon de l'Institut français de Kiev. Ils n'ont pas une énorme bibliothèque, d'imaginer. Mais et alors j'ai cherché quelque chose qui me soit vraiment très proche, et c'était le livre d'Anne Perrier que j'ai lu et que je me suis tout de suite mise à traduire. Mais évidemment, c'était qu'une première ébauche. Je pense que ce qui frappe chez Anne Perrier en général, hein, dans la poésie suisse, on en a parlé, c'est que c'est tout à fait cette empathie profonde avec la nature, avec les choses de la vie fugitive, comme ça, qui fait que elle est vraiment, cette poésie a gardé sa première. Son premier. Je dirais but, oui, c'est pas le mot évidemment, c'est de recréer une union avec le sacré des choses, l'âme des choses, qui n'est plus peut-être perceptible de nos jours à nous qui sommes très influencés par la matière qui nous surplombe de partout. Et c'est ce qui fait le bonheur de cette poésie et son impact très profond, puisqu'il touche jusqu'au tréfond de notre être. Et ce qui est caractéristique aussi pour Gustave Roux, par exemple, hein, c'est quelqu'un qui a aussi s'est imprégné du paysage au point de voir la transcendance de ce paysage dans les jusqu'au plus profond des choses du paysage qui reviennent dans une imagerie déjà personnifiée, mais alors vraiment personnifiée dans le sens mythique, hein, personnifiée par un faucheur qui devient en même temps ou un moissonneur qui devient en même temps à Christ, quoi, à Dieu ancien. C'est ce qui était justement dans la pensée grecque, hein, l'homme est le reflet du sacré, de l'eidos du sacré.
Oui, et paradoxalement, ce qui éloigne la France de nous vous rapproche de oui. cette poésie.
Ah oui, tout à fait.
Parce qu'il y a au fond une espèce de refus d'une dimension sacrée ou d'une dimension peut-être symbolique de la poésie dans la poésie française, disons, des années 70, 80,
oui,
90, très, voilà. très forte. Et au contraire, vous, c'est ce qui vous a attiré dans ce côté presque éternel enfin, de la poésie.
C'est vrai, parce que par exemple, il y avait une génération extrêmement importante, je pense, dans les années 50. Hein, quand on relit, par exemple, Yves Bonnefoy, que j'ai eu le plaisir de traduire, et qui dit carrément dans son Anti-Platon, non, il faut s'ancrer dans le présent, dans l'instant, et c'est là qu'on verra une déchirure dans la réalité, et le monde, enfin, les images sacrées de tout temps vont passer après cette ouverture. Mais évidemment, maintenant, hein, on peut rire de ça. J'ai encore rencontré un poète, un de ces jours, qui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que tout ces trucs éphémères ? La poésie, ça doit être une expérimentation verbale, un jeu, et pas du tout un truc sacré. » Et c'était un poète reconnu, hein, mais je ne veux pas vous dire son nom.
Mais c'est clair, en France, c'est absolument le discours. Hein,
oui,
donc ça éloigne complètement la réception de cette poésie-là en France, est encore aujourd'hui assez peu facile. Enfin, même s'il y a bonne foi, même si c'est vrai que Jacques Autet est un des cas comme ça de position intermédiaire entre encore quelque chose qui irait du côté du sacré et puis la modernité qui s'en est peut-être éloignée. Mais c'est singulier de voir que vous allez à ça, donc il y a une autre tradition.
Mais chacun, je pense que chacun cherche un peu sa voie et aussi bien peut se créer un peu une plateforme esthétique, hein, je dirais, qui n'est peut-être pas la bonne. Hein. Alors, il ne faut pas se leurrer que c'est vraiment l'unique, le sacré dans la poésie, le reste, il faut le balayer. Mais de toute façon, je pense que le problème, c'est que les gens et les poètes, de nos jours, ils se demandent peut-être pas assez bien sur l'essence de la poésie, la genèse de la poésie, d'où elle vient. Hein. Mais ça vient de l'art sacré, évidemment. Alors que, bon, le jeu était aussi évidemment présent, et l'orgiasme, etc. Mais bon, c'était quand même déjà des phases postérieures, hein, évidemment, tout au début. C'était le nom du totem, le nom du dieu qui transparaissait dans la poésie. Et d'ailleurs, dans cette tendance que se surappelait anagrammatisme et qui n'est pas très bien perçu aujourd'hui, mais les reconstructions de la, disons, de ces anciennes écritures, aussi bien bibliques que dans la Grèce ancienne, ils révèlent que c'était des tout premiers textes, c'était des textes phoniquement qui reprenaient toujours la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on reprend toujours la même chose ? Ben, ça doit être comme un nom de quelque chose, hein. Ça doit être comme évoquer quelque chose, le sacré. Enfin, à mon âme, mais évidemment, on peut dire que c'était le balbutiement primitif, quoi.
Voilà. Et puis alors, par rapport aux rimes, vous m'avez dit que vous aviez été étonné, au fond, en découvrant à un moment donné à quel point l'Europe, la France avait abandonné la rime pour passer soit à la prose, soit au vers libre complètement, alors que dans la tradition russe ou ukrainienne, c'est encore beaucoup plus. La rime est encore beaucoup plus conservée.
De moins en moins.
Voilà.
Dans les jeunes générations.
La culture a fait aussi tomber la rime. En
oui, tout à fait. C'est le vers libre est beaucoup plus présent maintenant. Mais vous savez, je pense que dans ce cas, si on s'éloigne de la rime, je pense que c'est une bonne chose qu'on s'éloigne de la rime traditionnelle, quoi, les alexandrins, etc. Mais parce qu'il faut voir aussi, je pense qu'il faut voir quelle était la genèse du poème. Hein. Et justement, quand on retrouve ces premiers textes et qu'on voit que les premiers poèmes étaient justement des assemblages phoniques tout à fait extraordinaires, ce n'était pas la rime à la fin de la ligne. Hein. D'ailleurs, il n'y avait pas de ligne. Hein. À l'époque, c'était tout en même temps. Donc, il y avait justement ce qui crée un Perrier. Hein. C'est ce qui la rapproche aussi de la poésie ancienne, c'est qu'il y a toujours des rimes intérieures.
C'est ça.
Et les rimes qui évoquent quelque chose.
Il y a un tissu de sonorité que vous reproduisez de façon assez étonnante en russe. Il y a des moments, c'est tout à fait incroyable. C'est vrai qu'en fait, on n'entend pas du tout, on ne comprend pas du tout la langue, mais qu'on entend la musique dans la langue qui est l'équivalent de la musique d'Anne Perrier en français. Mais c'est très fort, disons, c'est très fort à l'audition. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Des étonnements, des...
Je voulais prolonger une remarque que vous avez faite tout à l'heure par rapport à l'expérience de retrouver dans le texte d'arrivée tout d'un coup un effet sonore qui semble un heureux hasard, on dirait comme ça. J'ai eu aussi l'occasion d'expérimenter ça en essayant de traduire le poème de Dan Perrier en portugais. Je suis portugais. Et c'est comme si c'était fait pour un jour être traduit. Et alors, comme je dis, aucune expérience dans je ne suis pas du tout du monde des lettres, dont je me rapproche un peu tardivement maintenant. Et puis alors, je me pose la question, est-ce que j'ai le droit, si dans le poème original, l'auteur n'a pas cherché à produire une rime, que ce soit terminale ou à l'intérieur du vers, si dans la langue d'arrivée il y a un effet sonore qui semble beau, le souci de rester proche, le plus proche possible, de s'effacer le plus possible en tant que traducteur, est-ce qu'on, entre guillemets, on a le droit de laisser un effet sonore qui dans la pièce originale n'est pas présent?
C'est une très bonne question, mais pour moi, je trouve que si ça produit la musique des mots dans la langue cible et qui sert le sens, que c'est tout à fait valide,
légitime,
oui.
Oui, il faut toujours aussi voir le poème, parce qu'on peut dire ça en théorie, mais évidemment, si on voit le poème et on voit à peu près l'image phonique qui en découle, parce que quand même souvent, un poème, ça donne justement un certain symbolisme phonétique. Par exemple, si on parle de l'eau, alors il y a peut-être le clapotement de l'eau, et alors si on parle du craquement de branches, il y a peut-être un craquement de branches dans le poème. Donc ça doit être toujours approprié au sens, évidemment. Hein. Et si c'est approprié au sens, évidemment, surtout chez un Perrier. Hein.
Avec une grande attention, je pense, à ne pas surécrire. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est-à-dire que à tout vouloir prendre et intégrer, on augmente cette densité. C'est ce que vous aviez dit, le critique américain, il a essayé de supprimer tout ce qui lui semblait des ajouts, et vous avez discuté et défendu vos choix, mais il avait le sentiment qu'on ajoutait ça. Je pense que c'est un danger, c'est aussi un danger dans l'exégèse des textes, de multiplier les expressions plutôt que de les réduire.
Justement, parce que par rapport à cette situation, je rencontre parfois la situation suivante. Il y a en portugais, pour un mot donné, trois synonymes, mais qui vraiment, tous les trois, assez équivalents dans leur signification. Et il se trouve que un des trois alors peut amener un effet sonore qui n'est pas présent dans le texte d'origine. D'abord, je me pose la question pour justement ne pas surcharger.
parce que je choisis l'autre qui n'a pas, n'introduit pas cet effet sonore. Et donc c'est toujours difficile de... Alors, moi, pour le moment, je laisse tout ouvert, parce que comme je n'ai pas d'objectif particulier de terminer quoi que ce soit, donc j'aligne les mots et puis plus tard, ça deviendra plus clair. Ou alors, en parlant avec un terrier, peut-être qu'elle n'est pas éclairée, ça.
Dans ce cas-là, elle, comment est-ce qu'elle réagit si vous lui posez la question ?
Je n'ai pas à ce stade, je ne suis pas entretenu avec elle de traduction de ses poèmes en portugais. C'est plutôt dans l'autre sens, c'est du portugais vers le français. Ça vient.
C'est vrai que la pauvreté peut être programmatique dans une poésie aussi. Et si on enlève cette pauvreté en lui donnant trop de clinquants, ça peut aussi la trahir. Mais oui, c'est terrible à dire, c'est plus beau et c'est moins juste, peut-être. Oui,
on respecte le style du poète.
C'est ça. L'italien, par exemple, crée beaucoup ça à la traduction. Il embellit.
La traduction embellit. Oui. J'ai aussi l'impression parfois que le rythme de la langue ukrainienne ajoutait comme une intensité de son.
Oui, on peut pas faire autre, parce que dans la langue ukrainienne, ce sont différentes.
C'est la syntonie.
Oui, voilà.
C'est un problème, la syntonie.
On essaie de créer un effet de syntagme, de la couler, comme ça, oui. Mais comme c'est une langue avec tout à fait une autre versification, évidemment, ce sera plus.
Voilà. Oui, parce que l'accent, le français peut être aussi un peu plat. Et c'est, les effets spéciaux vont trop loin. Et puis la simple traduction est peut-être trop pauvre. Donc la justesse, elle est vraiment dans une mesure très très particulière. Et chez Anne Perrier, ces moyens pauvres qui étaient pour elle les moyens de résistance au monde, c'était des moyens extrêmement calculés. Chez elle, c'est véritablement la seule façon de résister à cette emprise qu'elle a sentie depuis les années 50 jusqu'à nos jours. C'était cette pauvreté, le seul moyen de dire non au monde et oui au chant. Mais ça fait que le non au monde ne doit pas prendre des accents de révolte, et puis que le oui au chant ne va pas non plus surmonter ou surplomber le poème. C'est vraiment une sorte de dialectique entre les moyens pauvres et puis le oui au chant. C'est impressionnant, et je comprends que les difficultés de la traduction soient immenses pour l'introduire aussi dans une versification qui obéit à d'autres lois. Et vous allez publier vos éditions en édition bilingue. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Nous pensons à cela, oui, mais en fait, peut-être ce sera plutôt une version unilingue, parce que comme c'est trois recueils, déjà, ça fait un livre assez... Parce qu'il faut, nous aussi, on voudrait quand même respecter justement cette disposition des textes pour laisser le blanc. Donc je pense que c'est même... Et puis, à vrai dire, l'éditeur, il s'intéresse plutôt à l'édition unilingue parce qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs francophones. Franchement, français n'est pas ni la première, ni la seconde, ni même la troisième langue, mais... Quatrième, cinquième.
Ce serait pour les générations précédentes.
Ah oui. Oui, celle de Tolstoï.
Oui, exactement. Ou encore plus avant, de Pierre Le Grand. Je ne sais pas si quelqu'un a une question ou quelque chose à dire. Ou à proposer.
La question, c'est par rapport, je ne sais pas si vous avez de l'expérience d'avoir traduit et de pouvoir discuter avec s'il est vivant, l'auteur, de valider ou de approfondir. On a évoqué quelques situations où la question se pose, il y a un doute, il y a des choix. et de pouvoir discuter avec l'auteur. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Avez-vous eu l'occasion de, pas avec Anne Perrier, mais peut-être pour d'autres auteurs?
Non, malheureusement, j'ai pas communiqué avec Yves Bafoy, mais j'ai communiqué avec un autre auteur qui est plus jeune, François Emmanuel, qui est un écrivain belge d'expression française et dont j'ai traduit le récit La question humaine. Et c'est un récit vraiment très particulier pour lui, parce que tous ses autres ouvrages sont d'un style très très mélodieux. C'est une écriture très très musicale, hein. C'est une écriture avec de longues phrases un peu proustiennes comme ça, proustiennes. Et alors à un certain moment, il a écrit un court texte, un récit, La question humaine, qui parle de la tragédie de l'Holocauste. Et alors, il compare cette tragédie, cet aveuglement, avec notre vie contemporaine, au point de vue de la technocratie, de la société moderne. Alors, il essaie de créer le même effet dans l'écriture, il essaie de créer l'effet de l'écriture technocrate, ça d'un coup. Et après, le héros principal, il commence à se rendre compte que le monde dans lequel il vit, c'est un monde de mort, en fait, hein, qui l'entoure et qui n'ont aucune quête, aucune valeur. Hein. Il pense qu'à travailler, gagner de l'argent, et puis, enfin, dormir, c'est tout. Enfin. Et alors, à un certain moment, quand lui vient cette évidence, alors il y a la musique qui s'éveille en lui, et du coup le texte devient de plus en plus fluide comme ça. Et ce qu'on a fait avec François Emmanuel, et c'est une expérience unique, je trouve, pour moi c'est une expérience unique, c'est que on a vraiment lu à tous les deux la version ukrainienne, la version française, et comparé le rythme de la phrase et surtout son intonation que je devais reproduire. C'est très important, oui, parce qu'on dit aujourd'hui, et certains théoriciens disent que le traducteur, pour être bien dans le texte, il doit entendre la voix du narrateur, la voix de l'auteur.
Oui, c'est pas l'oreille.
Alors, c'était une expérience comme ça, très émouvante. Donc donc c'est très important, évidemment. Hein. Si on peut rencontrer l'auteur, c'est ce qui est le mieux. Hein.
Quel est le titre de l'ouvrage de François Emmanuel que vous avez mentionné ?
La question humaine.
Infiniment de votre présence.
Merci de votre présence. Merci.